Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est l'académicien Frédéric Vitoux qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand dans Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Frédéric Vitoux a beaucoup écrit sur les chats, notamment un merveilleux dictionnaire amoureux des chats qui est un des best-sellers de la collection. Vous comprendrez de quoi, je devrais dire, de qui nous allons parler aujourd'hui. Et comme entrée en matière, je vous propose d'évoquer le singulier destin de plusieurs chats de guerre, notamment Sam l'insubmersible. Mais oui.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il est bien connu que les chats n'aiment pas l'eau, même s'ils savent instinctivement nager. On peut dire que leur morphologie leur fait plutôt éviter l'élément liquide. Il faut dire que leur fourrure n'est pas isolante, contrairement à celle de nombreux mammifères. C'est pourquoi tous les chats, quand je dis tous les chats, hormis les chats de l'espèce du turc de Van, évitent au maximum le contact de l'eau. Les chats ressemblent aux marins qui détestent l'eau, savent qu'elle représente un danger, un ennemi qu'il faut vaincre, écrit Frédéric Vitoux, et qui pour la plupart ne sont même pas fichus de nager. Les chats du reste ont eu longtemps en partie lié avec eux, les marins. À leur tour, ils devaient monter à bord des navires. Ils n'avaient pas le choix. C'est qu'il fallait des chats à embarquer, sinon les compagnies d'assurance ne remboursaient pas les marchandises attaquées par les rats. Vous voyez qu'il y a cette dimension toujours utile des animaux à bord. Hein. Le chat chasse les oiseaux, les rongeurs. Il a d'une manière générale un certain rapport au danger qui peut être très utile. Alors, cette pratique a conduit à la propagation des chats dans le monde, puisque évidemment les marins ont emporté avec eux des chats qui se sont ensuite un peu disséminés partout. On a vu les descendants de toutes sortes de chats se répandre sous tous les climats. Bien sûr, les races, les espèces ont évolué en fonction du climat, en fonction du milieu environnant. Il semblerait que les cargos phéniciens aient été les premiers à amener des chats domestiques en Europe. On était là aux alentours du 9e, 10e siècle avant notre ère. À la différence des chiens et des chevaux, les chats ne sont pas, vous l'aurez bien compris, destinés à un usage militaire. Les chevaux sont très obéissants, les chiens peuvent être dressés. Mais les chats, que voulez-vous faire de cet animal? Certes très agile, mais par ailleurs tellement distrait. Que voulez-vous faire de cet animal hors du commun, fantaisiste ou hors du commun, comme le disait Frédéric Vitoux? Eh bien, malgré l'aversion du chat pour l'eau et malgré cette absence quasiment générale de chats dans les armées et dans les affaires militaires, il y a deux chats qui se sont illustrés en milieu maritime. Le premier s'appelle Sam, on l'a surnommé Sam l'insubmersible, et l'autre c'est Simon. Alors, pourquoi Sam l'insubmersible, Unsinkable Sam en anglais? Il était connu aussi sous le nom d'Oscar du reste. Eh bien, c'était un chat qui vivait sur un navire militaire allemand. Il a navigué pendant la Seconde Guerre mondiale pour la Kriegsmarine. Ce chat était noir et blanc et il appartenait à un membre d'équipage inconnu, on ne sait pas qui c'était, du cuirassé allemand Bismarck. Les cuirassés, vous savez, sont des énormes navires de guerre qui apparaissent au milieu du 19e siècle et qui sont très impressionnants par le blindage extraordinaire qui les fait un peu ressembler à des fers à repasser sur l'eau. Le Bismarck est le vaisseau allemand le plus récent, le plus puissant de la flotte nazie. Imaginez un gigantesque navire de 250 mètres de long pour 36 mètres de largeur. C'est une sorte de monstre de ferraille. Et à bord de ce navire, vous avez donc un chat, notre fameux Sam. Nous sommes le 18 mai 1941. On est au début d'une opération qui s'appelle Rheinübung dans l'Atlantique. C'est une mission qui a été dédiée au Bismarck et qui a pour but de bloquer tous les navires britanniques qu'il pourrait être amené à croiser. Le 27 mai 1941, le cuirassé va être entraîné dans une terrible bataille navale. Il faut imaginer le déchaînement du feu et du fer. Le bilan humain de cette bataille est terrible puisque sur les 2200 membres d'équipage du Bismarck, seuls 115 vont survivre. Je pourrais presque dire 116, puisque vous aurez bien compris que le chat, lui, va survivre. Comme le veut la tradition, le capitaine, il s'appelait Ernst Liedemann, va sombrer avec son navire et on retrouve notre chat quelques heures plus tard, flottant sur une planche. Alors, il faut imaginer un morceau comme ça de bois qui est en train de dériver sur l'océan. Et le chat est aperçu par des Anglais à bord du HMS Cossack. Évidemment, les Anglais sont très sensibles aux animaux familiers, vous savez, ils vont vouloir recueillir le chat. C'est du reste le seul survivant du Bismarck qui ait été secouru par ce destroyer anglais. Alors là, on est sur un destroyer, c'est un navire de moins grande ampleur, évidemment. C'est un navire d'escorte, nettement plus mobile. Et ce sont les marins du Cossack, qui ne connaissant pas le nom du chat, bien entendu, ils ne pouvaient pas se douter qu'il s'appelait Sam, eux l'ont rebaptisé Oscar. Donc désormais, c'est Oscar, notre chat noir et blanc, qui va changer de camp complètement. Il sert sur le HMS Cossack, qui est affilié à la Royal Navy. Et dans les mois qui suivent son premier sauvetage, Oscar est à bord du navire qui effectue des missions d'escorte en Méditerranée et dans l'Atlantique Nord. Et le 24 octobre 41, lors d'une mission d'escorte, le HMS Cossack est sévèrement endommagé par une torpille. Vous allez dire, mais c'est ce chat qui porte malheur aux navires sur lesquels il se trouve. Le navire doit être sauvé de toute urgence. Il y a une tentative de remorquage près de Gibraltar. Seulement, les conditions météo sont épouvantables. C'est un échec complet. Il y a une explosion à bord. Et finalement, dans l'événement, 159 membres d'équipage vont périr. 159 morts, mais pas Oscar.
Dans ma cervelle se promène un cyclone, son appartement. Un beau chat fort doux et charmant continue au long longtemps.
Sur Europe 1, un extrait du double album de Léo Ferré paru en 1967. Léo Ferré chante Baudelaire, des poèmes mis en musique. Et on écoutait Le Chat. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur des chats remarquables et sur ce chat de guerre, Oscar, sauvé des eaux.
Il est insubmersible, cet Oscar, que voulez-vous que je vous dise? Il a été transféré sur le porte-avions HMS Ark Royal et le 14 novembre 41, il est de retour d'une mission en direction de Malte. Et vous avez compris ce qui va arriver, bien entendu. Jamais 203, le vaisseau est torpillé par un sous-marin allemand, le U-81. Comme lors du précédent naufrage, il y a des tentatives de remorquage, on essaie de sauver le porte-avions. Simplement, le navire ne peut pas être sauvé. Il se renverse d'un seul coup et il va couler à 30 milles de Gibraltar. Alors, il coule lentement, bien entendu, ce qui va permettre à l'équipage de s'en sortir, à l'exception d'une personne. Et Sam, comme dans le cas du Bismarck, est retrouvé accroché à une planche qui flotte comme ça sur les flots. Décidément, ce pauvre chat était insubmersible. Et d'ailleurs, il y a actuellement un portrait par Georgina Shoebaker qui se trouve au Musée National de la Marine à Londres et qui montre le petit chat noir et blanc, ce Sam insubmersible, sur sa planche, bien entendu, la planche qui, à deux reprises, l'aura sauvé des flots. Alors ça, c'est un chat qui s'en est bien sorti. Vous allez voir ce qui est arrivé à un autre chat. On est toujours dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Plus exactement, on est juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à Hong Kong, à l'époque où la Chine est en pleine guerre civile. Vous savez, vous avez les communistes d'un côté avec Mao et Zhou Enlai, etc. Et puis de l'autre côté, les nationalistes du Kuomintang de Chiang Kai-shek. Or, un jeune matelot anglais de 17 ans, il s'appelle George Hickinbottom. Ce George se trouve sur les quais de la ville en mars 1848 lorsqu'il aperçoit un chat errant qui a l'air visiblement en mauvaise santé. Il a été mal nourri, ce chat. Bref, le marin va se prendre d'affection pour ce chat. Il va l'emmener clandestinement à bord du navire où il officie qui s'appelle le HMS Améthyste. Et très vite, comme souvent sur les navires anglais, vous l'aurez compris, le chat va s'attirer la sympathie de l'équipage. Même les officiers ne manquent jamais de le caresser au passage. Ce chat est très utile parce que, bien entendu, il va aller dénicher avec un zèle extraordinaire les rats qui sont nichés dans les cales du navire. Alors on va lui donner un nom à ce chat. Simon, on va l'appeler nous Simon. Il devient, si vous voulez, un peu la mascotte porte-bonheur de cette frégate. Et d'ailleurs, il a pris l'habitude, et tout le monde le laisse faire, d'aller voler la casquette du capitaine pour s'en faire une couchette. Le nouveau capitaine de ce navire s'appelle Bernard Skinner. Et la première mission qu'il va avoir à accomplir, c'est de remonter le Yangtze jusqu'à Nankin. Il s'agit de remplacer sur place un navire qui s'appelle le HMS Consort, qui protégeait l'ambassade britannique. Vous savez ce que c'est que le Yangtze, hein ? C'est un énorme fleuve avec un débit extraordinaire. C'est le plus important, le plus long fleuve d'Asie. C'est un fleuve dont la remontée est tout à fait dangereuse, surtout dans ce climat de guerre civile, bien entendu. Et il va y avoir un incident, vous vous en doutez. Escarmouche des communistes chinois qui ouvrent le feu. Le capitaine Skinner est pris de court, il est touché et il va mourir très peu de temps après. Il va mourir de ses blessures. Il y a 25 membres de l'équipage qui périssent. Et Simon, me direz-vous, un autre chat, Simon, eh bien, il est blessé. Il va se traîner péniblement, ce petit chat, jusqu'au pont. Il est transporté jusqu'à l'infirmerie où il est soigné. Ses chances de survie sont très minces. Les médecins estiment qu'il ne va pas passer la nuit. Entre-temps, la métiste parvient à fuir. Seulement, la situation est critique, puisque l'odeur du sang a attiré les rats qui s'attaquent aussi bien aux hommes blessés qu'aux provisions. Eh bien, malgré tout ce qu'on avait pensé, Simon va survivre, il restera fidèle à son poste, il va retourner à ses activités de dératisation d'une certaine manière, ce qui joue un rôle non négligeable dans l'amélioration des conditions sanitaires à bord. Et on voit Simon qui vient régulièrement au chevet des marins blessés pour leur remonter le moral, ce qui fait qu'il va devenir une sorte de célébrité. Plusieurs journaux de la presse britannique et même américaine vont prendre Simon en affection et on voit affluer les récompenses. Il va recevoir la médaille Dinkin qui récompense les animaux de guerre, la médaille de la campagne du HMS Améthyste et il reçoit le titre de Hebel Sea Cat, ce qu'on pourrait traduire par chat marin compétent. Aujourd'hui encore, ce petit chat, ce Sam, est le seul à avoir jamais obtenu la médaille Dinkin. Des milliers de lettres lui ont été adressées, si l'on peut dire, et le lieutenant Ed, qui est un ancien membre de l'améthyste, a été affecté à son service. Il a dû traiter le courrier du chat et répondre, bien entendu, à tous ceux qui lui avaient écrit. Il est mort, Simon, en novembre 1949. Des centaines de personnes, je dis bien des centaines de personnes, ont assisté à son enterrement au cimetière animalier de Hillford. Il y a eu un arbuste qu'on a planté à sa mémoire dans l'Arboretum Memorial National du Staffordshire en Angleterre. Et voilà ce qu'on peut lire sur sa tombe. « À la mémoire de Simon, a servi à bord du HMS Améthyste de mai 48 à novembre 49, décoré de la médaille Dinkin, août 49. » Mort le 28 novembre 49 durant l'incident du Yangtze, son comportement fut de la plus haute importance.
Passez une très belle après-midi sur Europe 1, vous écoutez au cœur de l'histoire et nous attendons vos messages et vos questions quand vous le souhaitez sur la page Facebook de l'émission par mail europe1.fr ou via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Vous restez avec nous sur Europe 1, on vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer de parler de ces chats au destin incroyable.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les chats sont au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, vous nous racontez cet après-midi des destins singuliers de chats et après deux grandes aventures, voici un troisième chat surprenant.
Un chat insubmersible, un chat héros de guerre. J'aimerais maintenant évoquer un autre cas, alors là, nettement moins amusant pour tout vous dire. C'est une opération qui a été menée par la CIA, on est dans les années 1960, une opération qui s'appelait Acoustic Kitty, c'est-à-dire, si on devait traduire en français, on va dire les chats acoustiques. Le projet a été mené entre 1961 et 1966. On est à cette époque de la guerre froide où, par tous les moyens, les États-Unis veulent essayer de savoir ce qui se passe en Union soviétique. Entre parenthèses, nous sommes bien placés en ce moment notamment pour savoir à quel point les Américains aiment écouter et surveiller et espionner le monde entier, n'est-ce pas? Mais là, en l'occurrence, bien sûr que c'est sur l'URSS que porte l'essentiel des efforts de la CIA, qui, parmi les idées alambiquées et, entre nous soit dit, singulièrement perverses qui ont pu la traverser pendant cette période de la guerre froide, a eu l'idée d'utiliser un chat domestique comme sonde vivante pour aller espionner les Russes. Alors on a choisi un chat, on l'a choisi pour sa robustesse, pour ses qualités propres. Il va subir un certain nombre d'opérations chirurgicales, ce chat, puisque, tenez-vous bien, il s'agit de transformer sa queue en antenne. Il s'agit d'implanter une batterie sur son cœur et on va mettre des micros dans ses oreilles. Vous imaginez un peu la pauvre bête ce qu'il va subir. Eh bien néanmoins, et il faut rendre hommage sans doute aux chirurgiens qui œuvrent à l'époque pour la CIA, malgré toutes ces interventions très compliquées, le chat reste en vie. Ça veut dire qu'on est en présence peut-être d'un des tout premiers êtres mi-organiques, mi-mécaniques de l'histoire, puisque c'est un chat qui est en partie technologique, si je puis dire. Il continue à vivre avec ses micros dans les oreilles, avec son antenne dans la queue, enfin, etc. Et la première mission qu'on va confier à ce chat, c'est d'espionner la conversation de personnes qui se promènent tout près de l'ambassade soviétique à Washington. Vous imaginez bien que le chat est une sorte de micro ambulant. Il y a un ancien officier de la CIA qui, dans son rapport, va décrire le déroulement des opérations. Il s'appelle Victor Marchetti. Ils ouvrirent le chat en deux, placèrent les batteries, puis le recousirent. La queue fut utilisée comme antenne. Ils en ont fait un monstre qu'ils testèrent encore et encore. Ils se rendirent compte que lorsqu'il avait faim, il cessait de travailler. Ils placèrent alors un tube dans son estomac pour lui couper la faim. Quand il fut prêt, ils l'emmenèrent au parc et lui dirent distinctement « Va écouter ces deux hommes, tu as bien compris ?» Ni les chiens, ni les oiseaux, juste ces deux hommes. Imaginez si le chat va écouter, si le chat va obéir. Alors, faut dire quand même qu'il y a eu des années de préparation, bien entendu, et que là, maintenant, vous avez toute une équipe de la CIA qui suit notre chat pas à pas. Le félin s'approche, il est vraiment maintenant tout près du parc. On vérifie que l'antenne fonctionne, on vérifie que tout le mécanisme est tout à fait opérationnel, et pour l'instant, ça a l'air de marcher. Alors bon, ce qu'on entend, c'est plutôt des bruits de la rue pour l'instant. Ce qu'on entend, c'est précisément le pépiment des oiseaux. Mais il va bien finir par s'approcher de ce personnel de l'ambassade soviétique, il va bien finir par capter des phrases intéressantes. On se met à la place de ces agents de la CIA qui étaient là dans leur bureau, qui essayaient de régler la bonne fréquence, qui essayaient d'écouter à travers les oreilles, par le biais, si je puis dire, des oreilles du chat, d'écouter ce qui pouvait bien se dire. Ils n'entendaient pas grand-chose. Alors, ils règlent l'appareil, ils changent leur casque, ils règlent encore. Mais on n'entend pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce chat? Et d'un seul coup, un bruit terrible. Et puis plus rien, juste un petit sifflement sur l'antenne de nos espions. Et oui, parce que le chat vient d'être écrasé par un taxi qui était en train de passer en bordure de ce parc de Washington. Alors la CIA se dit que un chat perdu, 10 de retrouvé, on va mener d'autres expériences et ça recommence. On opère les chats, on leur installe l'antenne dans la queue, les micros dans les oreilles et les pauvres animaux, alors pour la plupart d'ailleurs, la plupart vont crever, mais même lorsqu'on arrive à avoir un chat suffisamment résistant pour qu'il survive à toutes ces opérations, il n'y a pas moyen de transformer le chat en micro-ambulant. Décidément, cet animal est trop rétif et la CIA va essuyer toute une chaîne de fiascos au point même qu'on finisse par douter du bien fondé de ce projet. En 1967, on décide que ce projet, qui quand même avait coûté, tenez-vous bien, entre 10 et 20 millions de dollars, on estime que ce projet ne méritait pas d'être poursuivi et l'on va gentiment refermer le dossier. Voilà des anecdotes qui sont peut-être un peu particulières. Frédéric Vitou, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, avec vous, nous allons venir à des chats peut-être un peu plus tranquilles, puisque nous allons parler des chats d'écrivains.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes barres.
te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat.
Moi vouloir être le chat, tant qu'il soit quand je te vois. Moi vouloir être le chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, moi toujours rester à toi.
Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines.
Moi vouloir être le chat, et ne risquer de tes doigts que le caresse sur moi.
A cappella, les quatre membres du groupe Powo sur Europe 1. On écoutait Le Chat et ses compagnons à quatre pattes sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, le romancier et essayiste Frédéric Vitou de l'Académie française, auteur du Dictionnaire amoureux des chats version illustrée chez Plon Flammarion.
Avant d'en venir aux écrivains et à leurs animaux favoris, cher Frédéric Vitou, il faut que nous insistions sur cette dimension particulière des chats dans la marine. Vous me racontiez notamment, hors antenne, le cas d'un chat qui se trouvait sur le navire, sur la Jeanne d'Arc, le navire école de la Marine nationale.
Hors antenne et hors même de mon livre, Le Dictionnaire amoureux des chats, puisque j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui avait été longtemps officier à bord de la Jeanne d'Arc, navire école de la Marine française, de la Royale, et qui me racontait qu'il y avait un chat qui avait pris pension à bord de la Jeanne d'Arc et qui avait une intuition formidable, c'est-à-dire que quand il faisait escale à Rio, je ne sais pas, dans des grandes villes du monde, dans les grands ports du monde, il partait, une chatte dans chaque port, je ne sais pas, ce chat, mais il savait intuitivement exactement l'heure d'appareillage.
Ça, c'est extraordinaire. Et il sentait que le navire allait partir.
Il était toujours à quai lorsqu'on rembarquait et lorsque le navire appareillait pour d'autres ports. Et un jour, le commandant, le midship, a décidé, pour une raison de météo, je ne sais pas, de partir une heure plus tôt. Et le chat n'était pas au courant. Et quand il est arrivé sur le port, le navire était déjà loin et les malheureux officiers et les hommes d'équipage ont vu le chat sur le port. Ils étaient désespérés. Et si bien que le navire s'est mis en arrêt et une chaloupe est venue le chercher. Et même un jour, c'est encore plus amusant et plus mélancolique, c'est qu'un jour, un mousse qui nettoyait le pont, agacé par le chat qui était dans ses pieds, lui a donné un coup de pied assez mauvais, assez méchant. Il a été repéré et ce malheureux marin, enfin d'abord le malheureux chat bien entendu, mais le malheureux marin a été mis aux arrêts avec comme motif « mauvais traitement à un camarade sans défense ». Que formidable.
Le chat considéré comme un membre de l'équipage d'une certaine manière. Il y a eu des chats comme ça sur certains navires qui étaient censés bien sûr courir après les rats.
Oui. Alors autrefois dans la marine à voile, il fallait toujours un chat à bord, c'était une obligation pour protéger les naturellement les cales et les graines et aussi pour attaquer les rats qui pouvaient ronger les cordages, mais il y a plus parce que les chats noirs, qui ont souvent, et à tort, très mauvaise réputation, avaient au contraire dans la marine anglaise une très bonne réputation. Si bien qu'il fallait toujours un chat noir à bord d'un navire, et qu'on dit que la Lloyd's, la grande compagnie d'assurance, dans les siècles passés, mettait comme condition à l'assurance un chat noir à bord. Parce qu'un chat noir à la proue d'un bateau est censé attirer le vent. Donc c'était dans l'image et pour le moral de l'équipage, il fallait qu'il y ait un chat noir pour la bonne entente du navire.
C'est-à-dire que là, on renverse la superstition d'une certaine manière, on la rend positive. Voilà. Mais une dimension magique ne s'en attache pas moins à la présence du chat à bord.
Le chat, de toute façon, est magique.
Et oui, ça c'est extraordinaire. C'est ce que vous nous avez permis de comprendre au fil des ouvrages, Frédéric Vitou. C'est cette dimension autre du chat. Ça n'est pas un animal domestique comme les autres, en quelque sorte.
Ce n'est pas un animal domestique.
D'ailleurs, ça n'en est pas du tout.
Et c'est pour ça que le chat, d'ailleurs, pourquoi le chat est si étrange? Pourquoi le chat est affublé de pouvoirs magiques, extrasensoriels, que sais-je? D'abord, c'est un félin qui s'est rapproché volontairement des humains. Donc ce double statut d'un animal proche des hommes, mais qui n'est pas un animal domestique, et qui donne aux hommes le sentiment de l'étrangeté. Dieu l'a fait dans sa grande bonté pour que l'homme puisse caresser le tigre. C'est quand même une phrase magnifique sur les chats. C'est aussi un animal nocturne. Le chat est un félin nocturne.
Oui.
Donc la superstition, c'est de croire que le chat voit dans la nuit totale. Bien sûr qu'il ne voit pas dans la nuit totale, mais il voit dans l'obscurité. Donc déjà, c'est un félin avec le monde sauvage. Le chat est un animal qui est censé voir dans la nuit. Et il y a un troisième point qu'il a souvent assimilé aux sorcières, c'est la sensualité. Le chat est lié à la sensualité, donc au péché, donc au mal, donc à la lascivité, donc voilà. Et donc tout ça a créé un imaginaire très fort qui a parfois été au détriment lui-même du chat, hélas.
Alors ce chat qui n'est finalement, d'ailleurs, qui n'a jamais été domestiqué, hein, c'est ce que vous nous dites, qui est venu de lui-même. Vous me racontiez une anecdote, d'ailleurs, qui est assez drôle. Ce que dit le chien et ce que dit le chat.
Ah bah oui, tout est dit. C'est de l'homme, le chien dit, il me nourrit, il me caresse, donc il est un dieu. Et en effet, toujours le chien est en admiration devant son seigneur et maître. En revanche, le chat dit de l'homme, il me nourrit, il me caresse, donc je suis un dieu. Et c'est vrai que le chat baudelairien adoré comme ça par tout le monde, le chat de Baudelaire et le chat de tout le monde, a quelque chose de magique. Au fond, le chat dirige l'homme. Le chat est le maître et l'homme est son esclave, alors que c'est le contraire pour les chiens.
C'est bien de commencer par Baudelaire, parce qu'on est là dans l'acception la plus classique du chat, en quelque sorte. C'est le chat à l'ancienne, Baudelaire.
Je ne sais pas si c'est la plus classique, mais Baudelaire, comme le romantisme en général, enfin comme le 19e siècle, nous ramène au Moyen-Âge et donc nous ramène au pouvoir magique du chat, à la différence du 18e où le chat est un animal, voilà, qui est un animal aimé, cajolé, mais comme un animal de cour, de salon. Le siècle des Lumières, est-ce que le siècle des Lumières va avec le chat, l'animal de l'obscurité? Je ne sais pas. Pour Baudelaire, il a vraiment le sentiment, quand il parle des prunelles mystiques du chat. Donc à la fois, le chat, c'est la sensualité, chez Baudelaire, totalement. La lascivité, quand il se compare à un chat qui aimerait dans les bras, entre les seins d'une géante, etc. Et c'est aussi le chat affublé de pouvoirs magiques.
C'est le chat inspirateur aussi, d'une certaine manière. Hein. Il est une sorte d'intercesseur avec la muse.
C'est une sorte d'intercesseur avec les puissances magiques, avec l'au-delà, avec tout le mystère. Et c'est vrai aussi, évidemment, chez Edgar Poe que Baudelaire a traduit. Et c'est vrai aussi chez Baudelaire.
Pourquoi est-ce que les écrivains, d'une manière générale, ont été tellement passionnés par les chats? On va citer un certain nombre d'écrivains qui ont vécu avec les chats. Est-ce que la présence du chat les rassure, en quelque sorte, les stimule?
Alors, on peut dire que, la fameuse phrase de Proust, les livres sont les produits de la solitude et les enfants du silence. Je crois que le chat s'accorde d'abord à la solitude et au silence de l'écrivain.
Premier point. Il les respecte.
Et il les respecte.
Alors que le chien vient troubler tout ça.
Le chien vient troubler, il est turbulent, il veut jouer, il veut... Voilà. Il y a peut-être plus. Un chat, enfin moi je parle d'expérience, mais je ne suis pas le seul. Quand un chat est là en face de vous sur votre table, dans la plénitude de l'être et du confort et qui vous regarde, vous exténuez, essayez d'écrire. Moi j'ai l'impression qu'il vous dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Vis dans la plénitude mystérieuse de l'être que je suis, que je représente. Et donc il vous invite à ne rien faire. Et si on arrive à écrire, je dirais, contre le chat, c'est peut-être qu'on a quelque chose à dire. Donc le chat est à la fois rassurant, silencieux, solitaire, et en même temps, il vous force à vraiment à écrire quelque chose de nécessaire, sinon on vivrait dans la quiétude zen du chat.
Comme si le chat s'autorisait une privauté que d'autres habitants de la maison ne...
Absolument. Le cas est exemplaire, c'est celui du chat de Dickens, le grand Dickens, hein, quand il écrivait dans son bureau qui était au rez-de-chaussée, avec un jardin en face de lui, personne dans sa famille n'osait rentrer, sinon ils étaient chassés impitoyablement par Dickens. Et un jour, une chatte a sauté par la fenêtre, il l'a appelée Williamina, et s'est installée sur le bureau. Et la famille, oh le malheureux chat, qu'est-ce qu'il va prendre? Pas du tout, Dickens n'a pas osé dire quoi que ce soit, et cette chatte a pris pension. Mais il y a plus, c'est que la chatte a fait des petits. Les petits sont restés dans la maison de Dickens. Et il y avait la petite, l'un des enfants de Williamina, si je puis dire. Alors elle était formidable, c'est une petite chatte. Et quand Dickens écrivait très tard la nuit, mais vers minuit, une heure, la chatte voulait se dormir. Alors avec sa patte, elle mouchait les chandelles pour dire maintenant ça suffit, basta, on dort. Et Dickens obéissait. Car évidemment, on obéit à un chat alors qu'on donne des ordres à un chien.
C'est assez étonnant, cette complicité qui s'établit entre de grands hommes et leur chat. On pense à Chateaubriand, c'est magnifique.
Chateaubriand, c'est formidable parce que là, on a vraiment une histoire incroyable d'un chat de gouttière, un chat ordinaire qui était né dans un palais, mais pas n'importe quel palais, c'est le palais du Vatican, je crois, dans les sens de Raphaël. Et qu'un jour, le pape, le vieux pape, qui était Léon XII, a vu ce petit chat blanc tigré, comme ça, et l'a pris en affection. Et quand il recevait en audience, le chat dormait sur sa soutane. Et un jour, l'ambassadeur de France auprès du Vatican, c'était Chateaubriand, et il remet ses lettres de créance au pape, et il voit le chat. Et Chateaubriand pose des questions sur le chat avec une sincérité non feinte, car Chateaubriand aimait les chats. Et ce vieux pape est tellement ému qu'il lui dit, écoutez, si je meurs, est-ce que vous garderiez mon chat éventuellement? Et quelques mois plus tard, Léon XII meurt, c'est en 1829, et des domestiques du Vatican viennent apporter le chat à Chateaubriand. Et donc ce chat de gouttière, qui est d'abord le chat du pape, devient le chat d'un des plus grands des écrivains de toute la littérature française. Quand il revient en France à la fin de l'année 29, le chat l'accompagne et le chat devient le chouchou, le chéri de Madame Récamier, de toute la société. Donc quand même, c'est une belle ascension sociale pour un chat de gouttière de se retrouver chat du pape et chat d'un des plus grands écrivains de toute la littérature française.
Quelle destinée de chat, hein.
Extraordinaire. Et il est mort, il est enterré, il a été enterré dans le jardin de Châteaubriand.
Pourquoi dit-on un chat de gouttière? C'est pour le distinguer des grandes races, c'est ça?
En fait, on devrait dire un chat européen, mais on dit que chat de gouttière. Mais j'aime bien le mot chat de gouttière parce qu'il y avait beaucoup de chats qui en effet dans les gouttières. Et regardez les tableaux de Stanley, même de Manet qui adorait les chats et qui a peint beaucoup de chats sur les toits des immeubles, d'où l'expression que j'aime bien d'ailleurs, parce que moi j'aime bien le côté prolo du chat de gouttière, même si on doit dire chat européen.
Il arrive
et non
que...
pas Europe 1.
Non, ça, les deux peuvent exister, mais voilà. Nous n'avons pas beaucoup de chats dans la maison, je dois le
c'est
dire.
C'est un tort.
On va essayer d'y remédier. Je vous promets qu'on va essayer d'adopter quelques chatons pour les saisons qui viennent. Il y a de temps en temps une sorte d'irruption du chat dans la littérature. C'est quand l'écrivain se met à décrire ce qu'il a sur sa table de travail. Je pense à Madame Colette, bien entendu. Hein. On,
oui.
on a tous appris à l'école cette page magnifique sur le chat qui vient jouer avec elle, etc. C'est intéressant de voir le chat devenir personnage en quelque sorte.
Oui, il y a des grands exemples. Effectivement, Colette a beaucoup écrit sur les chats. Elle a eu cette phrase admirable: il n'y a pas de chat ordinaire. Ce qui renvoie d'ailleurs à une phrase de Léonard de Vinci qui disait: chaque chat est un chef-d'œuvre. Ça, c'est deux phrases pour lesquelles...
Ce sont les exergues, en quelque sorte.
Exactement. Oui, il y a eu des chats des écrivains et il y a eu dans la littérature des exemples exceptionnels de chats devenus personnages de romans.
Alors, avant de continuer notre promenade chez les écrivains amoureux des chats, et nous la faisons à travers votre dictionnaire amoureux, bien entendu, Frédéric Vitoux, nous allons venir sur un certain nombre de ces personnages de la littérature. Comment pourrait-on les appeler ? Des chats célèbres, des chats...
Oui, des chats héros de romans, des chats de fiction et des chats
magiques. Appelons-les des chats de papier.
Des chats de papier, c'est pas mal.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Les chats sont au cœur de l'histoire, des chats héros de romans. Et vous recevez Franck Ferrand, le romancier essayiste Frédéric Vitoux de l'Académie française, auteur du dictionnaire amoureux des chats, version illustrée chez Plon Flammarion.
Il y a un chat qui est très célèbre, Frédéric Vitoux, c'est évidemment celui d'Alice au Pays des Merveilles. Là, celui-ci, il est devenu un personnage à part entière.
Ah oui, bien sûr, le fameux chat de Cheshire, mais qui est devenu à part entière pour quelque chose d'assez surprenant, parce que c'est un chat qui disparaît. Et là, on est dans la magie du chat, en quelque sorte, c'est que Alice voit le chat qui s'efface, un chat qui sourit, ce qui est exceptionnel, parce qu'un chat ne sourit pas, ou très peu, et il ne reste plus que le sourire du chat, comme si le sourire du chat était la seule chose qui restait du chat. Autrement dit, le chat est là même quand il n'est pas là, c'est ce côté magique, et qu'a très bien senti intuitivement Lewis Carroll. D'ailleurs, c'était frappant, quiconque a eu un chat sait très bien qu'un chat dans une pièce, vous êtes là dans la pièce, vous ne bougez pas, vous regardez, le chat a disparu. Le chat est doué de pouvoir, comme un passe-muraille, comme un héros de Marcel Aimé, je ne sais pas. Le chat est là et il n'est pas là. Et chez Lewis Carroll, le chat est là, puis il disparaît, il ne reste plus que flottant, mystérieux, que le souvenir ou le sourire du chat.
Présence quasi fantomatique. En quelque sorte. Il y a chez ces chats une dimension magique, on le comprend bien en vous écoutant. Le deuxième chat célèbre de la littérature, ou peut-être même premier, si l'on veut adopter une démarche chronologique, ce serait le chat beauté, bien entendu.
Bien sûr.
Alors lui n'est pas tellement chat, ce chat-là. Il n'a pas un comportement de chat.
Alors,
véritablement.
Ça, non.
Pas très félin.
C'est-à-dire, en fait, moi j'ai fait des recherches sur les chats bottés. C'est une vieille légende qui traîne même de Russie partout, le chat avec des bottes. Et alors, c'est intéressant parce qu'au fond, chez Perrault, dans les contes de Perrault, c'est le conte 17e, c'est la vision du 17e siècle classique au niveau de l'homme. Et le chat est en effet un chat malin, rusé, qui attire la prospérité sur son maître par différentes combines. Mais c'est un chat, je dirais, humanisé, un chat classique devenu homme. Comme le chat de La Fontaine. Le chat de La Fontaine, c'est un chat absolument abominable, horrible,
oui.
qui est menteur, qui est
Grobis,
fou,
oui.
assassin, qui a tous les défauts du monde. Donc, en général, les amoureux des chats devraient détester La Fontaine. Non, parce que c'est le plus grand, un des plus grands écrivains de toute l'histoire de la littérature française. Mais aussi parce que le chat sert de prétexte à parler d'un modèle humain. Voilà. Alors on prête au chat tous les poncifs sur le chat. C'est-à-dire le chat est fourbe, le chat est menteur, le chat est égoïste.
Ça c'est ce que pensent les gens qui n'aiment pas les chats. C'était le cas de Napoléon Bonaparte notamment, qui avait une sorte de phobie. Il détestait les chats.
Parce que les chats ne lui obéissaient pas.
Et voilà.
Sans doute.
Les chats ont trop d'indépendance pour certains. Alors je voudrais qu'on évoque, avant de revenir à nos écrivains, deux personnages de la littérature que sont Belzébuth et Bébert. Alors Belzébuth, peut-être, ça c'est chez Théophile Gautier, c'est dans Le Capitaine, Fracasse.
Vous savez, je crois que c'était Oscar Wilde qui disait que le plus grand chagrin de sa vie, ça avait été la mort de Lucien de Rubempré dans Splendeur et misère des courtisanes, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre de Balzac. Pour ma part, l'un des plus grands chagrins de ma vie, ça a été la mort de Belzébuth à la fin du Capitaine Fracasse. Ce chat qui accompagne le héros pendant toutes ses errances, toutes ses années de combat, de misère, etc. À la fin, grâce au chat, on remet la main sur le trésor de la famille de celui qui avait été le capitaine Fracasse. Et on fait bombance, et le chat est heureux, et le chat s'empiffre à la table où tout le monde, où le couple se reconstitue de capitaine Fracasse et de sa bien-aimée, etc. Et le chat meurt d'indigestion. Et quand on enterre le chat, précisément, on enterre, on creuse la terre et on trouve le... Donc à la fois le chat est bénéfique, mais bénéfique par la mort et la mort de Belzébuth, ce compagnon fidèle, est quelque chose pour moi de déchirant. Aussi déchirant peut-être que la mort de Bambi aussi, vous savez, dans les dessins animés de Walt Disney. Et donc c'est un chat pour moi qui a joué un rôle sombre et merveilleux en même temps dans ma propre mémoire de lecteur et ma propre mémoire d'enfant.
Ce qu'il y a de déchirant dans Bambi, c'est la mort de la mère.
De la mère, la mort de la mère de Bambi.
Et alors, Céline, alors là on entre dans une autre littérature.
Oui. Alors, le cas de Céline est intéressant parce qu'on a...
Louis-Ferdinand Céline.
On a le cas avec Céline d'un chat qui a ce double statut. D'abord d'un chat réel que Céline avait adopté et son épouse pendant la guerre.
Bébert.
Qui s'appelait Bébert, qui avait été d'abord le chat d'un acteur célèbre qui s'appelait Robert Le Vigan. Ce chat va fuir avec Céline la France au moment de l'annonce du débarquement allié en Normandie et va vivre des aventures extravagantes dans le nord de l'Allemagne, puis à Sigmaringen au sud de l'Allemagne où Céline retrouve la colonie française de toutes les rescapées de la collaboration, des épaves, puis retraverse tout l'Allemagne à feu et à sang en mars 45, dans les dernières semaines de la guerre. Il va connaître même la prison au Danemark, il va connaître l'exil, il va revenir en France, donc c'est une destinée hallucinante de ce chat trimballé dans une gypsière percée de trous pour pouvoir respirer. Et Céline, naturellement, dont toute l'œuvre s'inspire de la vie, essentiellement dans la trilogie finale de ses trois derniers romans, va raconter la vie de Bébert et va faire de Bébert un personnage à part entière et l'un des grands personnages de la littérature française du XXe siècle. On voit Bébert qui côtoie des officiers de la Wehrmacht, Pétain, Laval, tous ces gens-là qui sont là à Sigmaringen, se promènent dans les coulisses du château de Sigmaringen, qui est toujours celui qui n'est dupe de rien, ni des mensonges, ni des illusions, ni des égarements tragiques de la guerre et de l'occupation, dont Céline, hélas, a été aussi l'un des éléments, on le sait, mais qui n'est jamais dupe de rien, qui est silencieux, qui observe, qui est dans les coulisses, et à qui on ne la fait pas, comme on dit familièrement.
Ce qui ne veut pas dire que Céline soit un homme à chat, d'une certaine manière.
C'est le paradoxe, c'est quand il a été question pendant la guerre d'adopter Bébert, c'était Lucette, la veuve de Céline, veuve de Céline, qui avait voulu de ce chat que le Vigan ne voulait plus garder. Et Céline ne voulait pas entendre parler de cela, il n'intéressait pas les animaux particulièrement, et il s'est laissé faire. Et après, il est devenu absolument fanatique des chats. Et aussi des chiens et du mystère animal en général. Quand il dit « le chat, c'est l'ensorcellement même, le tact en onde ». C'est magnifique, ça.
Mon Dieu, quelle belle formule. Le tact en onde. Oui. Un autre fanatique des chats, c'était Paul Léotot. Alors lui, il en avait une quantité, lui.
Alors, Paul Léotot, c'est un autre cas. C'est intéressant. Paul Léotot adorait les chats, adorait les animaux en général, mais c'est presque une pathologie chez lui, parce qu'il y avait des vingtaines, des trentaines, des quarantaines de chats. Mais son amour des animaux, son amour des chats, à mon avis, quand il disait d'une maîtresse, quand une maîtresse me quitte, je prends un chat, une bête m'abandonne, je retrouve une bête. Enfin, donc il y avait chez Léotot, au fond, plus un côté misanthrope, qui n'aime pas les hommes, que quelqu'un qui aime les chats vraiment. Enfin, non, il aimait beaucoup les animaux, dire le contraire, ça serait une absurdité.
Mais
ce qui se révèle, c'est surtout par opposition à son amour des animaux, sa misanthropie incroyable.
Bien sûr.
Qui a donné lieu à un journal qui est parmi les plus belles œuvres de la littérature française.
Il faut évoquer Malraux, enfin, vous le faites en l'occurrence.
Ah, oui. Malraux met beaucoup les chats, et puis il avait même réussi le mystère, réussi à intéresser De Gaulle aux chats. C'est lui qui avait raconté, mais je ne sais pas si on a le temps de la raconter, cette histoire.
Bien sûr, on a tout le temps.
Bon, cette histoire formidable. Il avait raconté à De Gaulle l'histoire de la bataille d'Azincourt, en lui expliquant pourquoi les Anglais avaient gagné, parce que les Anglais avaient dans leur armée des compagnies de chats qui les accompagnaient et que les Français n'avaient pas de chats. Alors De Gaulle s'était dit, mais pourquoi ? Tout simplement parce que la force de l'armée anglaise, c'était les archers et les arbalétriers. Et donc, pour que les archers abattus leurs armes soient au point, on les enduisait de graisse. Or, il y avait parfois des hordes de rats qui ravageaient les campagnes et qui pouvaient attaquer les armées et bouffer les cordes des arbalètes. Donc, les chats avaient une vertu d'empêcher les rats. Et c'est vrai. J'ai vérifié, c'est vrai que les Anglais avaient vraiment des compagnies de chats. Cela étant, ça c'est le côté un peu, parfois un peu mythomane peut-être de Malraux, c'est d'après des spécialistes que j'ai interrogés, on n'a jamais fait témoignage de rats qui avaient particulièrement ravagé la campagne française autour d'Azincourt au moment de la bataille, et que les Français, de toute façon, c'était la cavalerie qui s'est fait décimer par les archers anglais, les arbalétriers anglais. Donc, s'il n'y avait pas eu de chats dans l'armée anglaise, ça aurait probablement été le même résultat.
J'aime bien cette analyse,
mais,
en tout cas.
Mais
c'est amusant.
En tout cas, la présence de chats dans les armées pour protéger les cordes des arcs et des arbalètes est exact.
Ça nous ramène un peu à nos histoires de Sam de tout à l'heure là, et de Simon. Ces chats un peu guerriers d'une certaine manière. Alors, je voudrais surtout pas donner à nos auditeurs le sentiment que vous ne parlez que des chats littéraires dans ce dictionnaire amoureux des chats, puisque vous évoquez tous les aspects. D'abord, tous les aspects du chat lui-même, du point de vue biologique, du point de vue comportemental. Vous évoquez tous les chats dans la culture, dans l'art, dans les différentes symboliques. Enfin, c'est un livre extrêmement complet et fouillé. Qui, d'après vous, pour en rester aux littérateurs et pour en rester aux écrivains, qui, d'après vous, a le mieux décrit les chats ? Qui les a le mieux sentis ? Qui a le mieux restitué cette sorte de magie fantomatique dont vous nous parliez tout à l'heure ?
Comme le chat est multiple, je dirais que les écrivains, dans leur siècle, ont chaque fois décliner l'un des aspects du chat. Je pense que Baudelaire a le mieux dit en un minimum de mots le côté magique du chat. Je crois que dans les essais, Montaigne, sans avoir l'air d'y toucher, est parfait quand il regarde le chat sans lui prêter des mystères qu'il ne comprend mal ou qui n'existent peut-être pas, je ne sais. Et quand il dit simplement, quand je joue avec mon chat, qui sait si c'est moi qui joue avec lui ou lui qui joue avec moi. Des petites phrases très simples comme ça de Montaigne sont précises, sont justes, sont magnifiques.
Il y a aussi tout le talent des auteurs anglo-saxons, il faut dire, leur réserve, leur recul. On pense à Kipling, bien entendu, qui va prendre le chat quasiment comme un tigre en miniature. Hein, si
alors
je puis
Kipling,
dire.
Voilà, Kipling, je ne crois pas qu'il aimait particulièrement les chats, ce n'était pas forcément sa tasse de thé, si je puis le dire d'un anglais, mais dans un petit poème qui s'appelle Le chat qui s'en va tout seul, qui date de 1902, à mon avis, c'est celui qui, par une sorte de petite de fable comme ça sur les origines des rapports entre le chat et les hommes, a peut-être le mieux compris cette dualité du chat. Puisque d'un côté, le chat est celui qui va de son plein gré se rapprocher des premiers hommes, des premières femmes, et qui veut se faire adopter, mais refuse de se faire domestiquer. Et donc, cette double nature du chat, dans ce petit poème de Kipling de 1902 qui s'appelle « Le chat qui s'en va tout seul », a, à mon avis, résumé le mieux possible cette ambivalence, cette dualité de l'animal mystérieux et magique du chat.
Ce mystère que rend également, vous le montrez très bien, Patricia Highsmith. J'aurais volontiers lu un extrait de l'article que vous consacrez à Patricia Highsmith, où vous montrez qu'elle est elle-même tout en réserve. Elle est autant en réserve que le modèle dont elle parle, d'une certaine manière. Mais là, malheureusement, je n'en ai plus le temps. Je n'ai que celui de renvoyer nos auditeurs à votre dictionnaire amoureux des chats, évidemment publié par Plon, mais en coédition avec Fayard, de Frédéric Vitoux de l'Académie française, un livre merveilleux qui existe aussi dans une version illustrée, le dictionnaire amoureux illustré des chats, qui est publié cette fois par Plon et Flammarion. Merci beaucoup Frédéric Vitoux.
Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Franck qui vous demande via la page Facebook de l'émission, depuis quand les Français se baignent à la mer ou à l'océan en guise de divertissement ?
Oui, Franck a eu raison de poser la question en précisant qu'il s'agissait des bains de mer ou des bains dans l'océan, parce que évidemment les baignades en rivière ou dans les étangs, ça c'est aussi vieux que l'humanité, hein. On s'est toujours baigné dans les points d'eau et dans les rivières. Par contre, la mer, elle, faisait peur. La mer n'était pas du tout un endroit où on avait envie d'aller se plonger pendant très longtemps. Même les marins ne mettaient un orteil dans l'eau salée que lorsqu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et ce sont, comme presque toujours, les Anglais qui vont inventer le bain de mer. Ce sont eux qui vont franchir le pas, si je puis dire, et aller à la rencontre de l'eau mouvante et salée de la mer et des océans. On est au tout début de la révolution industrielle, vers le milieu du XVIIIe siècle. À l'époque, la pollution de l'air du fait d'un certain nombre d'activités industrielles va développer la tuberculose. Et parmi les moyens de soigner, eh bien, le docteur Richard Russell, notamment, va recommander les bains de mer, ce qui fait que à Brighton, à la fin du XVIIIe siècle, se créent les premiers établissements de bains. Alors, faut imaginer ce que c'était qu'aller se baigner à l'époque. Hein. On se baignait quasiment tout habillé. On avait des espèces de roulottes qui descendaient sur la grève, qui descendaient sur la plage, quasiment jusqu'à la mer, et qui permettaient, qui étaient comme des cabines de bains desquelles on descendait juste faire trempette, avec d'ailleurs des espèces de maîtres nageurs qui vous tenaient des deux côtés pour vous éviter d'aller vous noyer dans la mer. Alors, cette habitude britannique a été adoptée par les Français, ou plus exactement par une Française qui n'en était pas une, puisqu'elle était d'origine italienne, c'est la duchesse de Berry qui, en 1822, va mettre les bains de mer à la mode à Dieppe. Alors, petit à petit, après Dieppe, on va voir des stations balnéaires se créer, en tout cas, on va voir des villes comme La Rochelle ou Cherbourg s'ouvrir aux bains de mer. On appelle ça à l'époque le bain à la lame, hein, puisque on faisait juste trempette d'une certaine manière, on attendait la vague, et puis quand on s'était bien immergé et qu'on avait dû recevoir un coup de froid terrible, entre parenthèses, hop, on faisait demi-tour, on remontait dans la cabine et c'était terminé. Alors, petit à petit, on va développer ces bains de mer, mais sur un plan beaucoup plus sportif. Sous le Second Empire, on voit naître des stations balnéaires, alors d'abord assez calme, si je puis dire, du côté d'Arcachon, et puis à Biarritz, où, vous le savez, l'impératrice Eugénie aura bientôt sa grande villa, et toute la cour de Napoléon III vient prendre la mer à Biarritz, et puis c'est le début des grandes stations balnéaires. La plus célèbre, c'est Deauville, bien entendu, créée par le duc de Morny, qui était le demi-frère de Napoléon. Du coup, on va créer des casinos, on va créer toutes sortes de grands hôtels, etc. Les chemins de fer vont développer cette mode et c'est, dit-on toujours, la loi sur les congés payés de 1936 qui va rendre populaire définitivement le bain de mer.